Moïse était-il égyptien ? Alors, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, mais on a choisi quand même de traiter certains thèmes pendant les cultes, et puis on quittera un peu cette question pour nous intéresser à quelque chose d'un peu plus spirituel au fur et à mesure que nous avancerons dans la prédication. Donc, deux textes bibliques, deux textes très importants dans la vie de Moïse, deux textes que vous connaissez, à mon avis. Alors, le premier se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, c'est celui de la révélation de Dieu au buisson ardent. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jethro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc ? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse ! Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, « N'approche pas du buisson, enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. » Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébusites. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras encore, « Celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. » C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Et puis, juste le premier verset du Décalogue, donc au chapitre 20, toujours dans le livre de l'Exode. « Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de la servitude. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors Moïse était-il égyptien ? En fait, c'est une hypothèse que certains présentent comme une théorie qui revient assez régulièrement. Ce qu'on appelle un marronnier, je crois, ça revient assez régulièrement. Mais il faut dire que celui qui a mis le plus en avant cette origine égyptienne de Moïse, c'est Freud. Freud qui, en 1939, finalement, c'est une sorte de testament, dans un livre qu'il a mis très longtemps à écrire, « L'homme Moïse ou le monothéisme » remet donc au goût du jour cette hypothèse de l'origine égyptienne de Moïse. Alors, on ne va pas s'apesantir sur ce livre, qui est somme toute tout de même intéressant, mais on peut entendre que lorsque Freud écrit cela, il est lui-même en exil, d'un antisémitisme d'une violence inouïe qui conduit à la Shoah. Donc on peut comprendre que Freud se penche sur l'origine de Moïse. Et ce, en même temps, il se penche sur sa propre origine, d'ailleurs. Mais nous allons laisser Freud là. Et j'aimerais quand même dire que cette thèse, il n'est pas la seule à l'avoir émise. Déjà, d'ailleurs, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un prêtre égyptien du nom de Manéthon émet cette théorie dans un récit assez compliqué et farfelu, et où il dit que le roi Akhenaton, qui s'appelle plus d'ailleurs Akhenaton, s'est fait expulser d'Égypte, ou est-ce un prêtre, on ne sait pas trop, et qu'il arrive à Jérusalem. Jérusalem, d'ailleurs, Akhenaton, c'est 14e siècle avant Jésus-Christ, à cette époque-là, Jérusalem n'existait pas, donc c'est assez étonnant. Il arrive à Jérusalem, et là, il se transforme en Moïse. Donc, vous voyez que c'est un peu farfelu. Mais cette hypothèse va refaire surface de plus en plus au XIXe siècle. C'est-à-dire que plus les découvertes archéologiques avancent, et plus les recherches historiques avancent, et plus il y a des personnes qui émettent cette hypothèse, et puis souvent d'ailleurs accompagnées d'un discours qui remet en cause tous les fondements du coup de la foi juive et de la foi chrétienne. Alors, ce que je voudrais voir avec vous d'ailleurs, c'est sur quoi s'appuient ces hypothèses, ce qu'on peut retenir ou pas, et puis j'aimerais dans un deuxième temps essayer de montrer et de partager avec vous en fait que, quelle que soit l'hypothèse de l'origine de Moïse, peu importe, ça ne remet pas en cause ma foi en tout cas, ni votre foi, parce que ce qui nous est dit dans la Bible à propos de Moïse, eh bien c'est ça qui est important. Quel est l'homme Moïse? Qui est-il? Comment se comporte-t-il? Et c'est pas tant là-dessus que je vais m'intéresser aujourd'hui, mais surtout quel est le Dieu de Moïse? Et c'est ça qui est important. Quel Dieu se présente à Moïse, que ce soit dans le buisson ardent ou sur le mont Sinaï lorsqu'il remet les tables de la loi? Alors, quant à cette hypothèse de l'origine égyptienne de Moïse, tout est assez farfelu, comme je l'ai dit, sauf une chose, c'est l'origine égyptienne de son nom, Moïse. Moïse, en effet, ce n'est pas un nom hébreu. Alors, la Bible nous raconte bien, de toute façon, la naissance de Moïse. Sa mère ne lui donne pas de nom, et c'est la fille du pharaon qui va lui donner un nom. Alors, somme toute, s'il a un nom égyptien, ça ne veut pas forcément dire qu'il est d'origine égyptienne. Ça nous dit que c'est sa mère adoptive qui lui donne son nom, Moïse. Alors, tout de suite, le texte rattrape en disant « on l'appelle Moïse parce qu'il a été tiré des eaux ». Parce que c'est vrai que la racine hébreu, enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu, mais de Moïse ressemble à la racine du verbe tirer. Mais en réalité, c'est un mot d'ailleurs que vous avez probablement, égyptien, que vous avez déjà probablement entendu, à travers tous les noms des pharaons. Alors je ne vais en citer qu'un, Ramsès, et la racine, c'est la même racine, Mses, que Moïse, signifie engendrer. Et Ramsès signifie « Ra » a engendré. Donc, vous voyez que finalement, l'origine de son nom est égyptienne, mais ça nous dit tout simplement qu'en quelque sorte, Moïse a une double appartenance. À la fois, il est hébreu par le sang, et puis il est un peu égyptien tout de même, par adoption. Et puis, on peut dire que ce récit est fortement imprégné de la culture, même le récit de Moïse, tout cela, surtout sa naissance, de la culture du Proche-Orient ancien. Parce que l'histoire de la naissance de Moïse, on le retrouve, c'est à peu près la même histoire que l'on retrouve dans les tablettes assyriennes, en acadien donc, c'est la naissance du roi Sargon Ier. Alors là, ça se passe en 2300 avant Jésus-Christ ou 2400 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça nous renvoie bien en arrière. Sargon Ier qui serait le premier roi assyrien. Nous raconte un peu la même histoire, qu'on voulait tuer tous les enfants, sa mère l'a sauvé en le mettant dans un couffin avec du bitume, on retrouve des choses. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça nous dit, et je pense que c'est important pour la suite de ce que je vais dire, que les auteurs bibliques se sont servis de la culture qui régnait. Ils ont pris des récits, et puis on sent que toute l'histoire d'Israël s'imprègne en fait de tout cet Orient, ce Proche-Orient ancien. Mais à chaque fois que les récits semblent emprunter, à chaque fois ils ont su les subvertir. C'est tout de même assez intéressant. Parce que, en fait, l'histoire de Sargon, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'il est fils de princesse et qu'il est recueilli, en général c'est comme ça que ça se passe, par des pauvres paysans, parce que sa mère veut le protéger. Mais il est de lignée royale, tandis que Moïse, il n'est pas de lignée royale, bien au contraire. Il est hébreu, il est esclave, il est fils de la famille des Lévites, donc une des 12 tribus, la tribu qui a pour tâche de rendre le culte. Donc ça c'est une première chose sur l'origine de son mot, sur l'origine de son histoire un peu. Donc qu'il y ait des influences égyptiennes c'est normal aussi, puisque tout cela, on imagine mal, mais en fait il y avait énormément de va-et-vient culturels, d'échanges de lettres, de textes dans l'Orient ancien. La deuxième thèse, qui est beaucoup plus farfelue là à mon avis, mais qui revient tout le temps, c'est en fait l'origine égyptienne de Moïse est mise en lien avec le caractère monothéiste de la religion des Hébreux de cette époque-là, et de notre religion d'ailleurs, soit dit en passant. Mais en fait, parce qu'au XIVe siècle avant Jésus-Christ, il y eut, ça c'est sûr, c'est prouvé archéologiquement, il y a un pharaon, Amenophis IV, qui prendra plus tard le nom de Akhenaton. Un pharaon qui va faire une révolution culturelle et culturelle d'ailleurs énorme, puisqu'il va imposer pour un temps, le temps de son règne, un seul dieu, le dieu Aton. Le dieu Aton. Il renverse tous les temples et puis à mon avis il a tué au passage tous les prêtres du dieu Amon qui était le dieu principal à l'époque en Égypte, mais tous les petits dieux aussi, il les interdit, il interdit leur culte. On ne sait pas trop pourquoi il fait cette révolution culturelle, probablement pour des raisons aussi de pouvoir et politique, et puis une manière de se présenter, puisqu'il se présente, il y a le dieu Aton qui est un disque solaire, et puis sur Terre il a deux représentants, cela forme une sorte de trinité, Aton, et puis sur Terre le pharaon et son épouse, c'est-à-dire Akhenaton et Néfertiti. Donc on voit une sorte de monothéisme, mais en réalité... D'abord, d'une part, historiquement, l'Exode est plus tardif, donc il serait étonnant que Moïse soit Akhenaton lui-même, soit un prêtre d'Akhenaton, suivant les théories, parce que ça se passe avant. Et surtout, en fait, le monothéisme d'Akhenaton n'a rien à voir, mais rien à voir avec la foi des Hébreux et le Dieu des Hébreux. Parce que Akhenaton adore un disque solaire. Alors, certes, le soleil a des bienfaits, mais le Dieu des Hébreux, n'est pas une créature ni une création. Il est le créateur, et là, il y a une différence essentielle. Et dès l'entrée de la Genèse, les auteurs bibliques nous disent qu'il est le Dieu créateur. Le quatrième jour, vous savez, lorsqu'il crée les astres des cieux, on ne nous dit pas qu'il crée la lune et qu'il crée le soleil, on ne les nomme pas. On nous dit qu'il a créé l'astre qui préside au jour et l'astre qui préside à la nuit, la lune et le soleil. Les auteurs le savent bien, tout autour d'eux, on adore la lune et le soleil, entre autres, sans compter les autres. Donc ils ne les nomment même pas. Je dirais même que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le récit d'Exode 3, eh bien, on nous dit que Dieu se révèle à l'Horeb. Et puis, plus tard, il nous dit qu'il se révélera sur ce mont-là. En fait, nous avons tous en tête, lorsque Dieu se révèle, le mont Sinaï. C'est le même. Et pourquoi ne dit-on pas Sinaï dans ce texte-là? Probablement parce que ce texte date d'une époque assyrienne où les Assyriens adoraient le dieu Sin, qui est la lune. Ils adoraient le dieu Sin, et à cette époque-là, comme les Assyriens occupaient une partie de la Judée, en tout cas le nord d'Israël, eh bien... Il était impossible pour les Hébreux de dire le mot Sinaï. Ils avaient peur, enfin, ils craignaient, ils refusaient, autrement dit, de prononcer le mot de ce Dieu qui n'était pas un Dieu. Car pour les Hébreux, le Dieu, Yahvé, tel qu'il se représente, et ce nom qu'ils ne prononcent pas, mais que nous traduisons par le Seigneur ou l'Éternel, l'Éternel Dieu, n'a rien d'une créature, il est le Créateur. Donc on voit bien que là, il y a une différence notable, même si il y a une grande proximité littéraire entre un psaume, le psaume 104, qui est magnifique d'ailleurs, et un hymne égyptien appelé l'hymne à Aton. Mais là aussi, les Hébreux se servent de ce qu'ils ont, de la culture ambiante, pour le subvertir, parce que là, le psaume 104, eh bien, c'est un chant de louange au Dieu créateur. Et on voit bien que ce n'est pas un chant de louange au soleil ou à la lune. C'est un chant de louange aux deux créateurs. Donc là, la culture égyptienne est subvertie pour dire, eh bien, notre Dieu, qui est le vrai Dieu, n'est pas une créature, mais c'est le créateur. Et enfin, il existe aussi, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, quelques inscriptions en Égypte où le nom de Moïse apparaît. Alors, c'est certainement différents Moïse, différents personnages. Et puis, ce Moïse semble être une fois nubien, une fois sémite, une fois asiate. On ne sait pas trop, en réalité. L'origine de Moïse, eh bien, peu importe. Peu importe ce qu'on nous dit, peu importe quelle est sa véritable origine. Ce qui est important, c'est quel est Moïse, quelle a été sa fonction, ce qu'il a fait, et aussi le Dieu de Moïse et le Dieu des Hébreux. D'ailleurs, en réalité, aujourd'hui, l'histoire, l'archéologie s'interroge sur l'origine même du peuple hébreu. D'où viendrait-il ? C'est certainement pas aussi simple que cela nous est raconté dans la Bible. Sont-ils ces apirous qui apparaissent dans des textes de l'Orient ancien ? Sont-ils ces abous qui sont dans un texte aussi là, égyptien sur la stèle de la stèle de Merneptah, qui, pour la première fois au XIIe siècle avant Jésus-Christ, va inscrire le nom d'Israël. On ne sait pas trop d'où viennent les Hébreux, mais peu importe. Ce qui est important, c'est justement ces textes qui nous parlent de leur histoire et quel est le message pour nous aujourd'hui. Quel est le vrai message? Finalement, personnellement, moi j'aime assez ne pas trop savoir, parce que ça me permet de m'identifier. Et c'est important parce que finalement, nous sommes tous ces Hébreux qui étaient esclaves en Égypte, vont tourner 40 ans dans le désert et faire cette expérience de Dieu, vivre cette expérience unique avec Dieu. Parce que c'est ça l'histoire du texte biblique. C'est l'expérience unique entre un Dieu et son peuple, mais c'est aussi à mettre en écho avec l'expérience unique qu'il peut y avoir entre Dieu et moi. Donc, vous l'avez compris, je ne souhaite pas trancher. Et puis, ça c'est un débat pour les historiens. Et à mon avis, la vérité biblique ne cherche pas des preuves. La vérité biblique s'adresse à notre foi. Elle ne nous demande pas de savoir, elle nous demande tout simplement de croire. Et là, eh bien, la vérité biblique se trouve au cœur même des récits, et à mon avis, de ces récits où Dieu se révèle. J'ai choisi cela pour montrer qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est monothéiste qu'on croit en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on est monothéiste eh bien, qu'on a forcément la vérité, bien au contraire. Eh bien, je voudrais avec vous donc essayer de voir quel est ce Dieu qui se révèle à Moïse. D'abord, dans cet épisode du buisson ardent. Déjà, c'est assez étonnant, ce buisson qui brûle mais ne se consume pas. Qu'est-ce que ça nous dit de Dieu ? Moi, je pense que, sans aller très loin, ça nous dit à la fois sa puissance et sa douceur. Le feu, c'est en effet quelque chose d'indispensable, qui chauffe. Mais le feu aussi, c'est dangereux, ça brûle. Alors imaginez un feu qui ne consume pas, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça nous dit la puissance de Dieu et sa douceur. Et puis, petit à petit, quand on avance dans le récit, on voit que Moïse a peur, il ne veut pas s'approcher de Dieu. Eh bien, pourtant, Dieu est là et continue à lui parler. Il n'est pas un Dieu dont on doit avoir peur. Au contraire, il est un Dieu qui rentre en dialogue avec Moïse, mais en dialogue avec les humains. Un Dieu qui se révèle là, dans le désert, c'est-à-dire dans un lieu où quand même on peut se poser et on peut prendre le temps pour le rencontrer. Donc je pense que ça aussi c'est important. Et que dit Dieu ? Il dit « j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris de mon peuple ». C'est un Dieu donc plein de bonté et compatissant. C'est pas un Dieu lointain, certes, il est le Dieu créateur, comme je dis tout à l'heure, mais il est aussi un Dieu qui entend son peuple souffrir. C'est un Dieu qui entend notre souffrance, nos cris, encore aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est essentiel, à mon avis. Et il se présente aussi devant Moïse comme étant le Dieu des ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rappelant ainsi l'histoire des patriarches et la bénédiction qui les a accompagnés, malgré tout, contre tout. Parce que les patriarches, parfois, elles se sont bien comportées, d'autres fois moins bien, mais Dieu était à leur côté, il les a bénis. Ils sont encore, comme Moïse, sous la bénédiction de la promesse qu'il a faite à Abraham. Alors là, Moïse, on peut le comprendre, s'étonne, et puis dit « Pourquoi moi ?» Et puis d'abord, « Qui es-tu ?» Encore une question à Dieu. Et pourtant, Dieu s'est déjà présenté, il a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a montré tel qu'il était. Il a dit « Moi, j'ai entendu mon peuple ». Il a même dit quelque chose d'essentiel, là, qui le différencie de tous les autres dieux. « Je suis descendu ». Il n'est pas resté là-haut, il est descendu. Comme il descendra à travers le Christ, dans le Christ, dans la personne du Christ. Il est descendu pour aider son peuple. Et Moïse, on peut le comprendre, ne comprend pas vraiment. Il lui pose encore une question, et Dieu a cette réponse énigmatique. « Je suis qui je suis ». Alors, Louis Pernaud, on a prêché il n'y a pas très longtemps là-dessus, disait qu'en fait, c'était une manière de botter en touche et de dire « Mêle-toi de tes affaires, je suis qui je suis, ça ne te regarde pas ». Mais moi, je crois qu'il y a de ça. Et puis, mais il y a peut-être un certain agacement parce qu'il s'est déjà présenté. Il sait qui il est, Moïse. Il a dit qui il était, ce qu'il faisait. Alors, pourquoi encore des questions ? Alors, il est qui il est. Évidemment, il faut le chercher. Mais il ne faut pas chercher tant à savoir qui il est, mais ce qu'il fait dans nos vies. Moi, finalement, ça me fait penser, mais ça, c'est une petite boutade. Au bout du troisième ou du quatrième contrôle d'identité, on en aurait peut-être marre, donc, de présenter nos papiers. Eh bien, lui aussi, il en a assez de présenter ses papiers, et il lui dit, écoute, maintenant, ça suffit, je suis qui je suis, et va vers les autres, et maintenant, annonce ce que je t'ai dit. Ça, c'est le Dieu tel qu'il se présente dans le buisson ardent. Et puis, il y a le Dieu qui va rencontrer Moïse et qui va donner le décalogue, les 10 commandements. Alors, je ne vais pas prêcher sur les 10 commandements, ce serait trop long, mais... Par contre, je voudrais insister sur cette phrase. Et d'ailleurs, le judaïsme l'a bien compris, puisque pour eux, la première parole, c'est cela. C'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de la servitude. » Il ne se présente pas comme un Dieu tout-puissant, comme un Dieu créateur. Non, il se présente en disant « Je suis celui qui te libère. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui te sort de ta servitude. » Et ça s'adresse aux Hébreux, mais ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à nous encore aujourd'hui. Il est un Dieu qui libère. Vous l'avez entendu même tout à l'heure dans la loi, Paul nous dit « Vous avez été appelés à être libres ». Et en effet, Dieu nous appelle à la liberté. Une liberté qui n'est pas toujours facile, parce que être libre, ça veut dire qu'on a des responsabilités aussi. Mais c'est un Dieu qui nous a créés libres, libres de nos choix. Vous savez, tout à fait, à la fin, toujours Moïse va nous dire « Choisis la vie ». Libre de nos choix. C'est à nous de choisir la vie ou pas. On sait ce qu'il faut pour choisir la vie. Tout le livre, toute la Bible, tout l'enseignement de Jésus, des prophètes, nous disent ce qu'il faut pour choisir la vie. Mais nous avons ce choix. Mais parfois nous nous trompons, parfois nous n'allons pas bien. Alors Dieu, eh bien, nous libère de nos enfermements. Nous sommes bien trop souvent refermés sur nous-mêmes, enfermés en nous-mêmes, dans une sorte de coquille. Dieu nous libère. Dieu nous dit, tu es libre maintenant. Toutes tes servitudes, tout ce qui t'enferme, tout ce qui te retient, tout ce qui te retient d'aller vers les autres, tout ce qui te retient de venir vers moi, tout ce qui te retient d'être heureux, eh bien, je te libère, moi. Tu n'es plus en Égypte. Tu as quitté, c'est moi, le Dieu qui libère, le Dieu qui t'a fait sortir du pays de la servitude. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. L'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est celle qu'il dit à la fin, tout à fait à la fin, lorsqu'il dit « Choisis la vie ». Il rappelle qu'il nous offre sa bénédiction, c'est-à-dire qu'il est à nos côtés. Alors, en effet, Dieu est descendu, mais Dieu aussi nous fait monter vers lui. Moïse monte vers lui sur le mont Sinaï. C'est là qu'il va découvrir, entendre Dieu. Il nous fait monter vers lui. Il y a une sorte de lien indissociable entre Dieu et nous. Dieu vient vers nous et nous appelle à aller vers lui. Il sait que nous en sommes capables. Et je pense que ça, c'est important. Parce que toute cette histoire de Moïse intervient dans l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu aime son peuple et nous sommes son peuple. Nous sommes appelés à l'aimer. C'est cela aussi tout le message de Moïse et tout le message de la Bible, en quelque sorte, qui va être repris par les prophètes et puis qui va être repris par Jésus. Jésus qui, lorsqu'il monte sur la montagne, alors ce n'est plus ni le Sinaï, ni l'Horeb, on ne sait pas où, il monte sur la montagne pour enseigner et qui nous dit encore cette bénédiction, ce message de bonheur que nous offre Dieu. Et il commence ainsi sur la montagne avec ce magnifique mot qui ouvre les béatitudes et qui va ouvrir le sermon sur la montagne, heureux. Et alors, peu importe que Moïse soit égyptien, qu'il soit hébreu, peu importe, en fait, ce qui est important, c'est d'entendre tout le bonheur qui nous est promis, tout le bonheur que nous promet le Dieu de Moïse et le Dieu de Jésus-Christ.